15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé-bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure, nous prenons soin de vous, nous répondons à vos interrogations et pour m'accompagner dans cette mission, il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au cancer, mais surtout à toutes les bonnes nouvelles en matière de traitement qui viennent d'être présentées au grand congrès américain de cancérologie qui est baptisé LASCO. Ça s'est déroulé de façon virtuelle cette année, et bien avec notre invité, le professeur Christophe Letourneau, responsable des essais cliniques précoces à l'Institut Curie à Paris. Nous parlerons des innovations dont profitent déjà les patients et de celles aussi qui pourraient bien encore révolutionner le pronostic des malades dans les années à venir. Ensuite, avec le docteur Jimmy Mohamed, comme tous les jours, nous répondrons à vos questions, mais désormais celles aussi qui concernent vos petits et gros bobos du quotidien. On sort un peu du coronavirus. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Elle répondra à la question d'une jeune femme qui s'interroge sur la nécessité ou pas de parler de son orientation sexuelle avec ses parents.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Mais avant cela, pour ouvrir votre magazine santé, nous allons quand même faire un petit point rapide sur le coronavirus. Et pour cela, nous accueillons en ligne le professeur Robert Cohen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil. Aujourd'hui, professeur Cohen, nous entrons justement dans la phase 2 du déconfinement, avant de parler de la question de l'école hein, et des enfants. Qu'est-ce que vous pensez, vous, on va dire, d'un point de vue général, à votre avis, ça y est, l'épidémie est terminée, on n'aura pas de deuxième vague, enfin, en tout cas, tout de suite?
Ah non, ça on ne peut pas dire ça. On peut dire que l'épidémie est en phase descendante extrêmement rapide maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines ou mois à venir? Il n'y a aucun scénario qui s'impose. Il y a des experts qui pensent que ça sera la seule vague, mais la majorité pense que, du fait qu'une partie non négligeable de la population n'est pas immunisée, il n'est pas exclu que cette maladie revienne, soit sous forme de cas endémo-épidémiques, comme vous dites, avec un certain nombre de cas, soit de forme de nouvelle épidémie. Mais franchement, avec l'apprentissage des mesures barrières et l'apprentissage de l'hygiène, j'ai du mal à imaginer que le pic soit aussi fort que le premier. Voilà.
Docteur Jimmy Mohamed.
Professeur, les écoles vont réouvrir petit à petit, collèges et écoles élémentaires, avec des enfants. Est-ce qu'il était temps d'ouvrir ces écoles? Et deuxième question qui en découle, est-ce qu'il faut continuer cette école un peu militaire où on a ces règles barrières, où il faut qu'on retrouve une école normale avec des enfants qui jouent ensemble à la récréation, qui sont proches les uns des autres?
Alors, moi, j'aime pas dire que la vérité est entre les deux, parce que c'est souvent, elle est rarement entre les deux, mais là, elle est possiblement entre les deux. En fait, au stade où on est, il faut que plus d'enfants reprennent l'école. Clairement, il y a beaucoup de écoles ouvertes, mais il y a très peu d'enfants accueillis en réalité, hein, puisque les chiffres qu'on a, c'est vraiment très, très, très peu, moins de 10%. Et là, il faut qu'on monte, hein, c'est pas possible, mais on pourra pas retourner tout de suite dans une école sans aucune mesure. Mais il est clair que le protocole sanitaire qui a été publié n'est pas compatible avec un fonctionnement normal des écoles. Il faut le dire clairement, il faut le répéter, ce qui nous a été proposé est impossible. Qu'est-ce qui est raisonnable? Ce qui est raisonnable, c'est d'abord que les classes ne se mélangent pas trop, ça c'est vrai. D'accord. Ce qui est raisonnable, c'est que les adultes autour des enfants fassent les mêmes mesures de précaution que s'ils n'étaient pas autour d'enfants. C'est-à-dire, eh ben, quand on est prêt, il faut porter un masque, il faut se laver les mains. Il ne faut pas que les parents se rencontrent à l'entrée, à la partie de l'école. Quand on dit se rencontre, ce n'est pas une rencontre instantanée. On sait très bien qu'il faut un certain temps avant que la contamination soit significative, le risque de contamination soit significatif.
Donc on ne parle pas tout entre parents quand on accompagne les enfants à l'école, ça c'est certain.
Voilà, c'est ça. Il faut renforcer l'hygiène des mains qui était tellement déficiente dans nos écoles que ce que chacun sait, hein, faut être complètement honnête. Renforcer un peu l'hygiène de base et puis il faut s'arrêter là. Je veux dire, le distancement chez l'enfant, il n'a pas besoin d'avoir la même rigueur que chez l'adulte parce que, indiscutablement, nos enfants sont moins souvent contaminés, moins contagieux entre eux et moins contagieux avec les adultes. Donc, on peut se permettre un distancement largement inférieur. Par contre, évitons de mélanger les classes, ça c'est clair.
D'accord. Et ce que vous voulez dire, donc, c'est que les enfants sont clairement, aujourd'hui, on peut le dire, ne sont pas les super contaminateurs qu'on imaginait au début. Vous avez fait une étude, hein, vous, en population pédiatrique, vous avez, je crois, testé les enfants de la naissance à 15 ans en Île-de-France. Qu'est-ce qui ressort d'ores et déjà, même si vous ne l'avez peut-être pas terminé encore, cette étude ?
Qu'est-ce qui ressort ? Déjà, on s'aperçoit qu'un homme infinitésimal d'enfants, c'est-à-dire de l'ordre de 1%, a une PCR positive. Donc, ce qui n'est déjà pas beaucoup. Mais même parmi ces enfants qui ont une PCR positive, la moitié d'entre eux, les trois quarts d'entre eux ont déjà des anticorps d'un côté, et de l'autre côté, ont des PCR très incomplètes. C'est-à-dire, c'est pas avec une PCR témoignant d'une charge virale probablement très modeste. Donc, ça veut dire que le nombre d'enfants qui refréquentent l'école et qui est éventuellement susceptible de transmettre le virus est extrêmement faible.
Jimmy ?
Extrêmement faible, donc ça veut dire que quand on a fermé les écoles, alors à ce moment-là, on ne savait pas, on s'est calé sur le modèle de la grippe, c'était peut-être pas nécessaire, on ne va pas rejouer l'histoire, mais ça veut dire quoi ? Que finalement, l'école n'est pas une source de réservoir à virus prête à exploser dès l'ouverture, et que la transmission elle se fait des parents vers les enfants et pas dans le sens inverse, raison pour laquelle il faut mettre les enfants à l'école, même pour les parents qui sont inquiets, qui veulent désormais les mettre qu'au mois de septembre, puisqu'on pense qu'on n'a pas assez de recul ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a eu raison de fermer les écoles parce que
juste
avant le confinement, d'abord on ne savait pas, et ensuite l'école par les trajets et les contacts entre adultes qui sont autour des enfants est un risque potentiel. Donc moi je n'ai aucune arrière-pensée sur la fermeture des écoles.
Au moment où on l'a fait, on ne savait pas plus que ça. Ouais.
Maintenant je suis beaucoup plus critique sur la façon dont on déconfine maintenant les écoles. C'est-à-dire que ce protocole sanitaire, malgré la volonté du président de la République, malgré la volonté du ministre de l'Éducation nationale...
Oui, parce que l'école clairement n'a pas repris. Hein. Enfin, moi, si je voulais mettre mon fils, c'est un jour sur trois. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écoles, hein, quand même.
Donc on se trouve avec moins de 10% des enfants présents à l'école un jour donné. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, j'entends de temps en temps me dire, mais dans un mois, c'est les vacances. Mais justement, dans un mois, c'est les vacances. Ils vont encore rester deux mois sans contact fréquent avec les autres enfants, sauf ceux de la famille, ce qui n'est pas tout à fait suffisant à mon sens, d'accord ? Puisqu'il y a peu de chances que les colonies de vacances rouvrent dans des conditions sanitaires correctes, il y a peu de chances que les systèmes de garde pour les parents qui travaillent soient ouverts différemment de l'école. Ça va être plusieurs mois sans contact avec les autres enfants, avec tout le bénéfice de la sociabilisation
eux,
des enfants. Je parle bien entendu des enfants de plus de 3 ans. Avant, c'est une autre discussion dans laquelle je ne voudrais pas rentrer.
Professeur Cohen, dès vendredi qui arrive, là, les enfants, les mineurs seront de nouveau autorisés à visiter leurs grands-parents en EHPAD. Alors ça, est-ce que cette mesure-là en particulier, ce n'est pas risqué ? Et puis, il y a aussi tous ces enfants qui maintenant, avec la barrière des 100 km qui a été levée, vont, bah, pour ceux qui ne retournent pas à l'école, aller chez les grands-parents. Est-ce que remettre les enfants avec les grands-parents, en contact avec leurs grands-parents, c'est risqué ? Est-ce qu'ils peuvent les embrasser ? Ben voilà. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus ?
Alors, ce que j'explique, c'est toujours le risque zéro n'existe pas. On est bien d'accord. Maintenant, je l'explique souvent aux parents qui me posent la question en consultation. Je leur dis, écoutez, j'estime que c'est plus dangereux que vous alliez voir vos parents, parce que vous êtes plus à risque de porter la maladie, que leurs petits-enfants. Parce que c'est vrai que le risque entre adultes est bien plus important que le risque d'enfant en adulte. Donc, pour moi, je n'ai aucune arrière-pensée. Les petits-enfants peuvent aller voir leurs grands-parents.
Et on peut faire des bisous aux grands-parents, parce que la question revient, est-ce que j'aurais le droit de rembrasser mes petits-enfants ?
Ça, c'est la deuxième. Nous sommes en période de déconfinement, de stabilisation d'épidémie. Moi, je dirais qu'ils peuvent les voir en maintenant un minimum de distancement, et qu'au fur et à mesure de ce qui va se confirmer, on va arriver, écoutez, à une vie quand même
normale.
Je dirais pas comme avant, mais normale, quoi, parce que il n'y a pas que le coronavirus dans la vie, quoi. Je veux dire, ni sur le plan psychologique, ni sur le plan des pathologies. Donc, je conçois que dans un premier temps, ils peuvent les revoir, on diminue le distancement.
Dans une semaine ou deux, on va dire, dès que ça sera
Tendances, si les tendances qu'on voit ces deux dernières semaines se confirment,
on reprend notre vie d'avant.
Sachant que peut-être qu'on sera obligé à la rentrée de resserrer les boulons. Hein. Ce n'est pas exclu que nous ayons de nouveaux cas à la rentrée ou pendant l'été. Je pense qu'on ne peut pas maintenir ce type de mesures sur le long terme en étant un niveau de vigilance suffisant. Il va falloir qu'on s'adapte aux risques épidémiques.
On va déjà essayer de profiter de l'été, effectivement, et on espère que la situation va rester celle qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Cohen, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci encore.
Europe 1.
Dans quelques minutes, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est l'oncologue Christophe Letourneau, avec qui nous allons faire le point sur toutes les avancées et les bonnes nouvelles en cancérologie. Car même s'il se déroule en virtuel, le grand congrès de l'ASCO se termine et de nombreux travaux vont donner de l'espoir à de nombreux malades du cancer. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h comme chaque jour. Alors tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Christophe Letourneau. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes oncologue et responsable des essais cliniques précoces à l'Institut Curie à Paris. D'abord, juste une petite question pour démarrer. Est-ce que le suivi et la prise en charge des patients atteints de cancer a pu se faire dans de bonnes conditions pendant cette épidémie, chez vous, en tout cas à l'Institut Curie où vous travaillez ?
Oui, alors ça, c'était un des premiers objectifs, hein, c'était de continuer à prendre en charge nos patients atteints de cancer, puisque le cancer est aussi une maladie grave. Donc, on a dû se réorganiser, bien sûr, pour prendre en charge nos patients et éviter à tout prix des visites inutiles et parfois faire des téléconsultations ou alors organiser des rendez-vous sur une même journée autant qu'on pouvait afin que les patients soient le moins en contact possible avec d'autres patients et éventuellement avec le personnel.
Ouais, mais professeur Letourneau, il y a quand même beaucoup de patients. Nous, on a reçu beaucoup de questions d'auditeurs, de patients atteints de cancer pendant l'épidémie, pendant le confinement, qui étaient très très inquiets parce qu'ils avaient eu leur opération annulée, que ce soit une opération pour enlever la tumeur ou une opération de reconstruction parfois. Vous avez vraiment dû peser le bénéfice de repousser ces opérations quand elles le pouvaient et les autres vraiment les faire quand elles étaient absolument nécessaires?
Oui, alors les chirurgiens ont dû effectivement réfléchir au cas par cas pour les patients, pour effectivement diminuer le nombre d'interventions chirurgicales pour que les anesthésistes réanimateurs soient disponibles pour les patients atteints de Covid. Mais c'est vraiment les opérations qui n'avaient pas de caractère d'urgence qui étaient décalées, ou les tumeurs bénignes, ou les tumeurs de très bas grade. Maintenant, les patients qui avaient des cancers invasifs de type digestif ou de la sphère ORL, bien sûr, étaient opérés comme d'habitude, parce que là, il ne s'agissait pas de décaler les interventions.
Docteur Jimmy Mohamed.
Est-ce que vous craignez une vague de patients qui a ignoré ses symptômes, qui n'a pas été se faire dépister, qui n'a pas osé aller faire cette radio, ce scanner en cette période de Covid et que vous allez peut-être récupérer dans quelques jours ou quelques semaines dans un état peut-être moins favorable que s'ils avaient consulté en tout début d'épidémie ?
On craint cette vague, effectivement, parce que on pense qu'il y a une période de sidération. Effectivement, on a vu moins de nouveaux patients venir à l'Institut Curie, avec une chute parfois de façon impressionnante. Hein, certaines consultations de chirurgiens qui voient des nouveaux patients qui ont diminué de 80%. Et on s'est dit, mais où sont tous ces patients qui, d'habitude, deviennent en flux continu? Alors, cette période de sidération, elle a duré 2-3 semaines où vraiment, il y avait plus de patients qui se présentaient ou beaucoup moins, même aux urgences de l'Institut Curie, on avait beaucoup moins de patients, beaucoup moins d'appels téléphoniques. Puis au bout de 2 ou 3 semaines, les patients se sont remanifestés, mais on n'est toujours pas au niveau d'avant. Oui. Et donc effectivement, le message qu'on donne, c'est voilà, si vous avez des symptômes, n'hésitez pas à consulter, parce qu'on s'attend effectivement à voir des patients arriver avec un stade de cancer plus avancé que le stade qu'ils auraient eu s'ils avaient consulté au moment de l'épidémie.
Professeur Letourneau, vous êtes en charge justement des études cliniques à l'Institut Curie. Est-ce que du côté justement de la recherche, des protocoles expérimentaux, vous avez pu continuer à mettre ces protocoles en place? Est-ce que la recherche a continué pendant cette période ou est-ce que vous avez été mis en stand-by vous aussi?
Il y a eu un très net ralentissement. C'est-à-dire que la majorité des études cliniques ont été interrompues pendant 2 à 3 mois. Ça a repris maintenant. Ce qu'on a essayé de faire, c'est pour les essais cliniques avec des médicaments qui étaient extrêmement prometteurs, c'est-à-dire pour lesquels on attendait vraiment une efficacité importante pour nos patients. On s'est organisé pour pouvoir inclure les patients dans ces essais. Mais pour tous les autres essais, il y a eu une interruption des inclusions des patients. Maintenant, les patients qui étaient inclus avant le confinement, bien sûr, on a continué à les prendre en charge et à les traiter dans le cadre de ces essais cliniques. Mais la recherche a très nettement ralenti, qu'elle soit clinique avec les nouveaux médicaments ou fondamentale dans les laboratoires.
Mmh. Jimmy ?
Alors aujourd'hui, justement, si on vous a invité, c'est parce que le congrès américain de cancérologie, l'ASCO, se termine. C'est la grande messe, pour ceux qui ne connaissent pas, mondiale de l'oncologie. Ce congrès a quand même eu lieu, mais peut-être dans des circonstances particulières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Est-ce qu'il y a 2-3 bonnes nouvelles, malgré tout, qu'on peut avoir de ce congrès ?
Oui, alors ce congrès a eu lieu sous forme virtuelle, hein, donc on ne s'est pas retrouvé aux États-Unis comme chaque année.
Il faut imaginer, juste pour nos auditeurs, que d'habitude c'est 40 000 personnes, je crois, qui sont réunies, des spécialistes du monde entier en oncologie, qui sont réunies à Chicago en général pour ce congrès. Hein.
Oui, c'est ça, c'est 40 000 personnes dans un endroit qui est extrêmement grand, quoi, qui fait plus d'un kilomètre d'un bout à l'autre. Donc voilà, on passe beaucoup de temps à marcher, à croiser les gens, à parler. Bon, voilà, là, on n'a croisé personne. Mais en revanche, on a eu accès à toutes les présentations, qu'elles soient orales, les diapositives, les posters. Je dirais la grande différence avec un ASCO normal, ben, c'est le manque d'interaction, hein, le manque d'interaction avec nos collègues, où finalement, en discutant avec eux, ben, y a une idée qui émerge et puis un projet qui va se faire. Là, on n'avait pas la possibilité de poser des questions en direct suite aux présentations des collègues. Mais bon, malgré tout, il y a des résultats qui ont été présentés, comme chaque année. Et là, ce qu'on peut dire sur cet ASCO, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle classe thérapeutique qui soit née.
Il n'y a pas surtout un nouveau médicament ou une nouvelle stratégie thérapeutique vraiment totalement innovante qui soit sortie. Hein.
Non. Voilà, totalement innovante. Non, ce qu'on a vu, c'est que on avance encore plus vers la médecine de précision, c'est-à-dire que voilà, on est de plus en plus capable sur la base de la biologie de la cellule tumorale, et ce de façon individuelle pour un patient donné.
C'est presque du sur-mesure dans le cancer maintenant, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà, exactement. Il y a de plus en plus de médicaments comme ça qui ne se donnent plus par type de cancer, mais sur la base d'une altération moléculaire, et qui sont extrêmement efficaces dans ces petits sous-groupes de patients. À chaque fois, ce sont des médicaments qui ne touchent qu'un petit groupe de patients, mais qui sont très efficaces dans ce contexte-là. Et donc, on voit qu'on poursuit dans cette direction.
Merci beaucoup, professeur Letourneau. Ne bougez pas, on ne fait que commencer cet entretien. On vous retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, on rentre un peu plus dans le concret. Nous allons continuer à parler des innovations les plus récentes en cancérologie. Celles qui demain, même dans des cancers à très mauvais pronostic, qui sont encore aujourd'hui si difficiles à traiter, comme des cancers du sein métastasé ou des cancers du poumon, vont peut-être révolutionner les choses. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et le professeur Christophe Letourneau. Je rappelle que vous êtes cancérologue et responsable des essais cliniques précoces à l'Institut Curie à Paris. Alors professeur, l'an dernier, vous étiez déjà venu nous parler de vos travaux, hein, notamment après l'ASCO, hein, en début juillet, je crois, si je me rappelle bien. Vos travaux qui consistaient à injecter des nanoparticules pour améliorer, pour booster de l'intérieur les effets de la radiothérapie. Je crois que vous avez présenté justement à cet ASCO qui se termine de nouveaux résultats. Qu'est-ce qu'il en est ?
Oui, tout à fait. Hein. L'idée, c'est d'injecter des nanoparticules dans la tumeur des patients, pour des patients qui ont un cancer de la gorge, et donc ensuite de réaliser le traitement conventionnel, qui en l'occurrence est une radiothérapie. Donc, ça veut dire qu'on envoie des rayons sur la tumeur, et l'idée, c'est que les nanoparticules vont démultiplier les effets des rayons. Donc, l'année dernière, on avait présenté nos premiers travaux sur quelle est la quantité de nanoparticules qu'il faut injecter avec des cohortes de patients qui avaient reçu différentes concentration. Et là, on a présenté nos résultats avec une cinquantaine de patients qui ont été traités tous à la même dose, la dose qu'on a identifiée comme étant la bonne.
Plus efficace, hein.
Voilà, avec un petit peu plus de recul. Et donc, ces résultats montrent que chez 83% des patients, on a une très bonne réponse au traitement. Et donc l'idée, maintenant, ça va être passer en phase 3, c'est-à-dire de passer à un essai comparatif, un grand essai, en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc ça va être un essai qui va être comparatif, parce que malheureusement, il n'y a pas encore d'autres moyens pour accéder à une autorisation de mise sur le marché, où la moitié des patients, finalement, vont avoir une injection de nanoparticules et puis l'autre moitié n'en aura pas. Et c'est ce qui permettra ou non de montrer que les nanoparticules, effectivement, permettent d'améliorer le devenir des patients.
Et oui, c'est comme ça qu'on fait de la recherche sérieuse. Alors, professeur Letourneau, je reviens juste sur vos injections. Comment ça se passe ? On injecte où exactement ces nanoparticules ? Directement dans la tumeur ?
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est les chirurgiens qui injectent ces nanoparticules, hein, sous anesthésie générale. Donc voilà, ils vont injecter les nanoparticules de façon homogène dans la tumeur des patients au niveau de la sphère ORL. C'est des nanoparticules qui sont inertes et qui toutes seules n'ont aucune activité. Et en fait, elles vont produire leur effet que lorsque la radiothérapie va démarrer, donc en démultipliant la quantité de rayons délivrés, si vous voulez, en augmentant donc l'efficacité de la radiothérapie.
Très bien, bon, ben, des travaux passionnants. Docteur Jimmy Mohamed.
Professeur Le Tournon, passons à un des cancers les plus fréquents et qui tue le plus, le cancer du sein. Beaucoup de présentations à l'ASCO cette année, et il a été question de la stratégie MammaPrint. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors l'idée c'est d'essayer de moins traiter les patientes atteintes de cancer du sein. Alors pour le coup, des patientes qui n'ont pas de métastase, hein, les patientes chez qui on a découvert un diagnostic, c'est vrai que le traitement est très souvent lourd, hein, avec la chirurgie, parfois de la chimiothérapie, mais en réalité souvent de la chimiothérapie, la radiothérapie, parfois l'hormonothérapie. Et ce qu'on essaie de faire, bah, c'est d'essayer de diminuer le nombre de patientes qui vont avoir une chimiothérapie, parce que c'est un traitement qui est lourd, avec des séquelles. Donc là, l'idée, c'est de faire une analyse génomique de la tumeur, donc de regarder au niveau moléculaire et de voir si on ne pouvait pas se dispenser de chimiothérapie chez un certain nombre de patientes.
Ça fait rêver les patientes qui nous écoutent, hein, parce qu'effectivement, éviter la chimio, c'est souvent l'une des grandes peurs, évidemment, des patients quand ils tombent malades. Et ça permet d'éviter la chimio dans combien de cas, dans combien de
pourcentages ? Bien sûr. Donc, si vous voulez, là, dans le groupe des patientes qui étaient cliniquement à risque et pour qui on aurait dit, ben, là, il faut faire une chimiothérapie. Quand la signature MammaPrint dit ben non, là c'est pas nécessaire, ça permet de diviser par deux le nombre de ces patientes qui ont recours à une chimiothérapie.
Par deux,
donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors voilà, en France, on arrive déjà à le faire grâce à des moyens un petit peu plus classiques, ce qui est moins le cas aux États-Unis, mais bon, malgré tout, ce sont des signatures génomiques qui sont extrêmement intéressantes.
Et oui, c'est très intéressant. Et ça pourrait être faisable dans d'autres cancers pour lesquels on a besoin de chimiothérapie, de dire, voilà, on fait cette signature génomique et on sait s'il y a besoin de chimio ou pas, ou c'est juste pour le cancer du sein pour l'instant ?
Alors, cette signature est spécifique du cancer du sein, mais il y a effectivement des travaux qui sont en cours dans le cancer du côlon aussi pour diminuer la durée de la chimiothérapie après opération, pour la diminuer de 6 à 3 mois. Et bien, un certain nombre de cancers aussi sur la base de signatures comme ça, mais c'est des travaux qui sont extrêmement longs, parce qu'il faut valider ces signatures, il faut effectivement montrer que ça permet de ne pas faire de chimiothérapie, mais tout en maintenant un taux de guérison identique.
Oui, bien sûr, c'est ça qui compte.
Donc ce sont des travaux qui sont quand même très longs, des essais thérapeutiques qui sont très longs. L'essai Mindact, hein, c'est un essai, les premiers patients ont été inclus il y a plus de 10 ans maintenant. Hein. Donc c'est des essais qui sont extrêmement longs, mais ça vaut le coup au final.
Jimmy, une dernière question ?
Oui, il y a aussi les travaux, toujours dans le cadre du cancer du sein, du professeur Bidard, qui ont été présentés, avec un marqueur dans le sang qui serait prédictif d'un échec d'une chimiothérapie. Concrètement, une patiente pourrait être une mauvaise répondeuse en fait à une chimio avec une simple prise de sang.
Oui, alors en fait, c'est une prise de sang qui recherche des mutations bien spécifiques, ESR1 pour ne pas les nommer, et qui sont des mutations de résistance à un traitement hormonal. Pas une chimiothérapie, mais un traitement hormonal. Donc là, ce qu'il a montré, c'est que effectivement, chez ces patientes qui avaient une mutation, bah, le traitement hormonal, en l'occurrence, ne fonctionnait pas très bien, ou en tous les cas, moins bien. Et donc, que pour ces patientes, ça aurait peut-être le coup de tenter un autre traitement. Donc ça sera la deuxième partie de l'étude. Mais voilà les premiers résultats, une simple prise de sang, effectivement, qui permet de prédire la non-efficacité d'une hormonothérapie.
C'est incroyable. On sent vraiment qu'on rentre dans de la médecine de pointe et très personnalisée dans le cancer. Ce sont vraiment de très bonnes nouvelles. Merci, professeur Le Tourneau. On va continuer cet entretien dans quelques minutes.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant. Nous poursuivons notre tour d'horizon des avancées en cancérologie. On vous parle des bonnes nouvelles aujourd'hui, hein, car en oncologie, la recherche ne cesse d'avancer, des progrès au service des malades et on s'en réjouit. On vous en dit juste après un peu plus, mais avant ça, place à la musique avec le chanteur Antoine Ellis. Ça s'appelle Paradis.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Avec nous aussi, notre invité du jour, hein, il est toujours en ligne avec nous, c'est vous Christophe Le Tourneau. Je rappelle que vous êtes cancérologue et responsable des essais cliniques précoces à l'Institut Curie à Paris. Professeur Le Tourneau, l'an dernier, vous nous avez parlé des avancées du côté de l'immunothérapie. Alors de ce côté-là, est-ce qu'à l'ASCO, on voit encore des choses prometteuses ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a par exemple de nouvelles localisations de cancer dans lesquelles on peut utiliser désormais l'immunothérapie ou en tout cas dans lesquelles ça marche ?
Oui. Il y a toujours des avancées avec l'immunothérapie plus précocement dans les cancers. C'est-à-dire que là, on avait une autorisation de mise sur le marché qu'en deuxième ou en troisième ligne après échec des traitements conventionnels. Et bien maintenant, on a des autorisations de mise sur le marché dès la première ligne de récidive. On a aussi des extensions, donc avec des nouvelles indications comme certains types de cancers de poumon qui sont plus rares. Donc oui, il y a toujours des avancées, mais toujours avec les mêmes catégories. théorie hein, d'immunothérapie. Et puis voilà, ce qu'on espère, c'est d'avoir ces fameuses associations d'immunothérapie. Mmh. Il y a énormément d'essais cliniques en cours, voilà, avec des résultats qui se font attendre, mais beaucoup de recherches en cours.
Est-ce que vous pouvez me rappeler quand même très brièvement et le plus simplement possible en quoi consiste l'immunothérapie ? C'est pas nouveau de cette année, mais quand même rappelez-nous le principe, ce qui est différent finalement de la chimio. C'est quoi l'immunothérapie ?
Oui, bien sûr. Ben, la chimiothérapie attaque frontalement les cellules tumorales hein, en les détruisant, alors que l'immunothérapie, finalement, va stimuler le système immunitaire des patients pour que le système immunitaire des patients, à son tour, fasse le job, quoi, aille détruire les cellules tumorales. Donc, c'est plus le médicament lui-même qui détruit les cellules tumorales directement, mais il stimule le système immunitaire des patients qui, lui, va ensuite aller détruire les cellules tumorales.
Jimmy.
Malheureusement, professeur, ça ne marche pas chez tout le monde. Et est-ce qu'on comprend un peu mieux pourquoi, chez certains patients, l'immunothérapie ne marche pas?
Alors oui, effectivement, finalement, ça ne marche pas chez tout le monde, loin de là. Alors, on sait pourquoi ça marche dans certains cas, en particulier sur la base de la biologie des cellules tumorales, sur le fait qu'il y a beaucoup de mutations, etc. On a encore du mal à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas chez certains patients. Et là, la stratégie, ben, c'est d'associer d'autres immunothérapies pour finalement cibler, booster le système immunitaire à plusieurs endroits. Ce qu'on pense, c'est que finalement, le booster à un seul endroit, ben, chez un certain nombre de patients, ça n'est pas suffisant. Quand c'est suffisant, c'est super parce qu'il n'y a besoin que d'un seul médicament, mais quand ça n'est pas suffisant, ce sont des associations thérapeutiques qu'il faut, et donc il faut attaquer la tumeur. Alors là, c'est plus la tumeur, mais il faut booster le système immunitaire par différents angles.
C'est pas la solution non plus à tous les cancers, vous venez de le dire. Hein, et du coup, est-ce que ça ne veut pas dire non plus, on est d'accord, enfin vous allez nous le confirmer ou pas, qu'avec l'immunothérapie et même des associations d'immunothérapie dont vous venez de parler, ça ne veut pas dire, on est d'accord, qu'on va jeter aux oubliettes la chimio, les rayons, enfin les traitements plus classiques et plus anciens
oui,
du cancer?
Non. Tout à fait. Non, les traitements classiques du cancer sont extrêmement importants. Aujourd'hui, hein, la plupart des cancers sont guéris par nos chirurgiens. Hein.
La chirurgie
est le traitement
aussi,
de référence
sûr.
Du cancer. Mmh. La radiothérapie est également le traitement de référence du cancer qui permet de guérir des patients. La chimiothérapie est extrêmement importante, bien sûr, pour tout ce qui est leucémie, lymphome, etc. Et puis en complément de la radiothérapie et de la chirurgie pour la guérison des patients. Et c'est un stade où finalement, il n'y a plus de place pour des traitements locaux comme la chirurgie et la radiothérapie parce que des patients ont développé des métastases, des cellules qui sont parties à distance. C'est là où les traitements ont toute leur importance. Et là, l'objectif, c'est de trouver des traitements qui fonctionnent le plus longtemps possible. Mais l'immunothérapie fait partie des stratégies comme la chimiothérapie, comme les thérapies ciblées, comme l'hormonothérapie. Et il n'y en a pas un qui a remplacé l'autre. En fait, on
a
agrandi l'arsenal thérapeutique.
Ouais,
voilà, exactement.
Docteur Jimmy Mohamed.
Quand on parle de chimiothérapie, pour beaucoup, c'est synonyme d'effet secondaires, perte de cheveux, nausées, vomissements, perte de poids, fatigue. Est-ce que la recherche s'intéresse aux effets secondaires de la chimiothérapie ? Est-ce qu'on a quelques pistes ?
Oui, alors toutes les chimiothérapies n'ont pas les mêmes effets secondaires. Hein. Certaines ne font pas tomber les cheveux, etc. Mais oui, il y a eu de gros progrès dans la gestion des effets secondaires de la chimiothérapie, en particulier pour les chimiothérapies qui étaient très émétisantes, qui donnaient beaucoup de nausées, avec des médicaments qui sont très efficaces. Et puis surtout, toutes les structures de prise en charge palliatif. On pense souvent à palliatif comme il n'y a plus de traitement. Et non, les médecins de soins palliatifs accompagnent les patients même en même temps que les traitements afin de diminuer les effets secondaires, de bien prendre en charge les patients, de les voir et de pouvoir contrôler tous ces effets secondaires néfastes des traitements. Il y a eu beaucoup de progrès là-dedans.
Est-ce qu'on peut juste pour terminer faire un point sur quelque chose d'important? Aujourd'hui, au moment où on parle, combien de patients atteints de cancer on arrive à guérir en moyenne et combien vous pensez peut-être que dans 10 ans, est-ce que demain le cancer ça deviendra une maladie qu'on guérira, je sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, à tous les coups, vous y croyez?
Alors, aujourd'hui, on guérit à peu près 60% des patients atteints de cancer. Et bien entendu, l'objectif, c'est d'augmenter ce chiffre. Moi, je pense que ce qui permettra d'augmenter le chiffre de guérison du cancer, ce sera un dépistage beaucoup plus efficace que celui qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dépistage permet de dépister des cancers et donc d'éviter que des patients arrivent avec des stades trop évolués. Mais bon, dans un certain nombre de cas aussi, c'est dépister finalement des choses qui ne sont pas des cancers, avec tous les inconvénients que ça a de faire un prélèvement sur finalement quelque chose qui n'est pas un cancer. Je pense qu'il va y avoir des développements fondamentaux dans l'imagerie diagnostique et dans le dépistage qui permettra de dépister les cancers à des stades vraiment beaucoup plus précoces et donc d'augmenter le taux de guérison. Je pense qu'il y aura encore des avancées dans les traitements, comme on le voit aujourd'hui, et qui permettront à des patients de vivre avec leur cancer de plus en plus longtemps, ce qu'on voit aujourd'hui chez un certain nombre de patients. Mais je pense que ce qui permettra vraiment d'augmenter le taux de guérison, c'est un dépistage beaucoup plus efficace que celui qu'on a aujourd'hui. Ça passera par la technologie et par une imagerie de pointe, je pense.
Merci beaucoup, professeur Letourneau, d'avoir accepté notre invitation pour ce point complet sur les avancées en cancérologie. Ça fait du bien de parler aussi de bonnes nouvelles, surtout en ce moment. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Santé revient. Ça sera le vrai faux avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous allons répondre à vos questions santé, bien-être, celles que vous nous laissez sur notre répondeur au 3921. On revient très vite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et tout de suite, on retrouve notre vrai faux, vos questions santé, bien-être au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle d'Annabelle.
Bonjour docteur Jimmy Mohamed, bonjour Mélanie. Je suis enceinte et je sais qu'il est conseillé de faire de la rééducation après accouchement. Donc je voulais savoir un peu en avance à quoi ça consistait, combien de séances cela nécessitait et qu'est-ce que c'est réellement quoi. Voilà, merci beaucoup, au revoir.
Alors pour vous répondre, je ne me suis pas tournée vers le docteur Jimmy Mohamed aujourd'hui, j'ai préféré prendre une spécialiste du périnée. Nous avons interrogé une spécialiste sur le sujet, donc c'est Souhaïa Bengarach, elle est sage-femme à Paris, on l'écoute.
La rééducation, elle consiste à redonner du tonus musculaire au plancher pelvien. Du coup, ça va être des exercices de contraction des muscles du périnée où on va venir cibler différents muscles par différents exercices. Alors la patiente, elle reçoit une prescription avec 10 séances à faire 6 à 8 semaines après son accouchement et ce, quel que soit le mode d'accouchement. Le praticien, du coup, il va adapter le nombre de séances en fonction des besoins. Parfois, ça va être moins, on peut faire 3-4 séances ou parfois plus si nécessaire. Le périnée, il est mis à rude épreuve par les pressions abdominales, les hormones, le poids du bébé, l'étirement lié à l'accouchement. Et du coup, dans un premier temps, la rééducation, elle va permettre de tonifier, renforcer le périnée et du coup, améliorer la qualité de vie de la patiente qui va présenter peut-être une incontinence urinaire, un prolapsus ou une autre complication. Et puis, sur le long terme, la rééducation, elle va permettre à ces femmes de mieux connaître et maîtriser leur périnée pour prévenir dans le futur l'apparition d'éventuels problèmes comme des fuites urinaires ou un prolapsus.
Voilà pour la réponse donc de cette sage-femme, Souhaïa Bengarach, au micro de Benjamin Lévesque. Jimmy, juste une petite question qui nous arrive en même temps tout de suite en ligne. Est-ce qu'il est nécessaire de faire cette rééducation quand on a eu une césarienne ?
Oui, c'est ce que la sage-femme disait. Quel que soit votre mode d'accouchement, que vous ayez accouché par voie basse et où il y a plus de travail, et ou par césarienne, il est important de faire la rééducation. Puisque même quand vous avez accouché par césarienne, le fait d'avoir être enceinte, vous avez le poids du bébé qui appuie, vous avez les ligaments qui se détendent. Exactement.
Ouais.
Donc le petit bassin se modifie en profondeur. Et donc même si vous avez accouché par césarienne, il faut faire la rééducation.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Johanna. On l'écoute.
Oui, bonjour. Je voudrais l'avis du docteur Jimmy Mohamed sur la télémédecine. Est-ce qu'on arrive vraiment à avoir une consultation de qualité avec son médecin en ce moment ? Et comment on fait pour les ordonnances, par exemple, après ? Est-ce que c'est remboursé, pareil, ou est-ce que c'est plus cher aussi ?
Alors Jimmy, le recours à la télémédecine, notamment depuis la période qu'on vient de traverser, ça a vraiment explosé. Hein.
Oui, si on l'aide, c'était un réflexe pour personne, ni pour les patients, ni pour les praticiens en dehors de certains. Si on vous donne quelques chiffres, on est passé de 90 000 actes hebdomadaires la première semaine du confinement à 500 000 en fin mars, à près d'un million début avril pour un peu plus d'un million 100 000 la dernière semaine, d'après les chiffres de l'assurance maladie. Donc c'est vrai que c'est un nouvel mode de consultation. Avant le confinement, les téléconsultations ne représentaient que 1% des consultations en France.
Ah oui, c'était pas du tout grand-chose. Hein. Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il faut être déjà équipé d'une certaine façon ?
Bon, il ne faut pas grand-chose. Non, mais écoutez, pour le médecin d'un côté, il faut un ordinateur, une tablette éventuellement, ou un téléphone vraiment quand c'est compliqué. Pour le patient, une connexion Internet. Et puis finalement, pas grand-chose de plus. Souvent, c'est au travers.
En Wi-Fi, c'est mieux, je crois. Hein, parce que moi, j'avais essayé une consultation et avec la 4G, ça n'avait pas bien marché.
Il faut vraiment une bonne connexion. Le Wi-Fi, c'est mieux. En règle générale, les patients ils sont au domicile et donc il suffit de pas grand chose en fait pour que la téléconsultation marche, à la fois pour le médecin, même parfois des médecins qui sont un peu âgés, qui ont du mal avec la technologie, il faut être honnête, et bien pour eux ça a été finalement très facile.
Très bien, alors c'est pour quel type de patient je dirais, et puis quel type de professionnel de santé aussi?
Alors pendant la période du Covid, ça a explosé pour plusieurs raisons. La première c'est que par exemple les addictologues, les psychologues, les psychiatres ont pu continuer à assurer le suivi, mais aussi pour les médecins généralistes, les cabinets étaient un peu désertés et parfois on faisait des téléconsultations même pour du Covid où est-ce qu'il y avait des suspicions. Donc finalement c'est à la fois pour des suivis de pathologies chroniques mais aussi des nouvelles des pathologies aiguës. Donc on s'est rendu compte que ça servait à tout le monde et c'est pour tous les praticiens, pas simplement les médecins généralistes ou les psychiatres. Tout le monde pouvait faire de la téléconsultation.
D'accord. Et le jour J, comment ça se passe? Enfin, je me connecte, j'ai un lien sécurisé, je crois, et je clique dessus.
Exactement,
et comment ça se passe
on
après
vous donne une heure de rendez-vous. Le médecin, il a une petite alerte sur son logiciel qui vous dit que le patient est en salle d'attente. Vous cliquez sur la fiche, vous
salle
avez le patient.
Salle d'attente virtuelle,
exactement,
donc.
Virtuelle, ouais. Exactement. Le patient, il vient à l'heure, d'ailleurs, pendant la téléconsultation.
Ça, ouais, ça
les médecins,
aussi.
On prend aussi à l'heure. Et donc là, c'était plutôt sympa. Et puis, la téléconsultation commence. Vous avez votre médecin en face. Vous expliquez vos symptômes. Il rentre ce que vous avez dans un logiciel. À la fin, vous avez un compte-rendu. Une ordonnance,
si besoin,
la feuille de soins pour vous permettre d'être remboursé.
Juste question très rapide, combien ça coûte? Elle demande si ça coûte plus cher, je ne vois pas pourquoi, non, il n'y a pas de raison.
Alors dans le cadre du Covid, tant qu'il y a l'état d'urgence sanitaire, toutes les consultations en rapport avec le Covid, une suspicion, étaient prises en charge à 100%. Et puis ensuite, pour la période classique, lorsque vous devez faire, demander par un renouvellement de pilules par exemple, eh ben, la consultation varie entre 58,50 en fonction du praticien, s'il est en secteur 1 ou secteur 2, le remboursement, 70% de l'assurance maladie, et le reste en fonction de votre mutuelle.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Si vous aussi, comme Johanna qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et avec nous en studio, elle arrive tout de suite, c'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes contente de la retrouver en studio, Jimmy. Hein, Catherine,
toujours.
Elle vous a manqué hein, pendant tout ce confinement, tout
l'émission.
Ça. Bon allez, c'est parti. Catherine, aujourd'hui on a une question de Colline. Colline, elle a 22 ans, je vous la lis. J'ai rêvé cette nuit que je faisais mon coming out à mes parents. Cela avait l'air si réel qu'en me réveillant le matin, je ne savais pas si c'était un cauchemar ou pas. Pensez-vous que c'est un signe que je dois leur annoncer mon homosexualité? Alors Catherine, est-ce que le fait de rêver de ça, parce qu'on peut rêver de beaucoup de choses hein, en fin de compte, est-ce que ça révèle vraiment une certaine anxiété peut-être de Colline vis-à-vis de la réaction de ses parents?
En tout cas, elle dit qu'elle ne savait pas si c'était un cauchemar ou la réalité. Elle n'a pas dit un rêve ou la réalité.
Ouais.
Donc je pense que de toute façon, il y a une inquiétude réelle quant à évoquer son homosexualité. Il faut quand même se rappeler que évoquer sa sexualité n'est pas chose normale avec nos parents.
Quelle qu'elle soit, on s'en fiche.
Oui,
en fait,
on ne dit pas tout d'un coup, allez, il faut que je vous raconte ce que je vis, ce que je fais. Et évidemment que quand on dit j'ai un petit ami, c'est une chose. Si on dit j'ai une petite amie, évidemment que ça donne une connotation de ce qui se joue dans la sexualité. C'est pour ça que c'est dérangeant. C'est que ce n'est ni le chemin parental, puisque c'est un couple hétérosexuel, et puis ça donne une idée de ce qui s'y passe, parce que quand c'est un couple hétérosexuel, plus personne ne se pose la question, puisque grosso modo, c'est le vécu de chacun en quelque sorte. Donc il y a vraiment une inquiétude de la part de cette jeune femme de révéler, de parler de sexualité, et de parler d'une sexualité dissonante par rapport à celle de ses parents. Donc son rêve n'est pas nécessairement le déclic, le déclencheur pour le faire, ni une indication qu'il faille le faire, mais c'est en tout cas le fait que ça la perturbe, puisque nuit après nuit, en tout cas cette nuit-là, elle se met à en rêver, donc c'est que ça l'habite beaucoup.
Docteur Jimmy Mohamed.
Et justement, le fait d'en rêver, est-ce que ça ne permet pas à son cerveau d'élaborer plusieurs stratégies, plusieurs scénarios? À quel moment vais-je leur dire? De quelle façon? Est-ce que ce n'est pas une façon d'anticiper quand même?
Si, tout à fait. Nos rêves sont là pour essayer d'évaluer les risques, d'une façon générale, pour tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que dès lors que nous rêvons de quelque chose, ça part évidemment de l'ordre d'une anxiété, nous cherchons une solution.
C'est comme entraînement un petit peu, c'est ça?
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a des rêves que nous faisons de façon récurrente. C'est-à-dire que nous avons une angoisse, ou une angoisse fantasmatique ou réelle, hein, enfin en tout cas qui s'appuie sur le réel, et nous cherchons à trouver une solution la plus stable possible pour nous, la moins dangereuse pour nous. Parfois d'ailleurs, la solution que nous cherchons dans nos rêves est névrotique et non pas posée sur le concret de quelque chose d'assumable facilement. Hein. Ça part dans tous les sens. Donc effectivement, c'est une façon de s'essayer, d'éprouver non pas la réponse de l'autre, mais son propre rapport à l'émotion liée à ce sujet et les solutions que l'on s'invente, les scénarios que l'on s'invente dans le lien à l'autre.
Et là, dans ce qu'elle dit, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle dit que ça avait vraiment l'air très réel. C'est vrai qu'il y a des rêves comme ça qui paraissent vraiment plus réels que d'autres. Il y a des matins, on se réveille, on sait très bien qu'on vient de rêver et que c'était pas la réalité. Là, elle dit qu'elle se réveille, elle sait plus si c'était vrai ou pas. Pourquoi cette notion de réalité dans la vie onirique comme ça?
Pascal, il y a des rêves qui sont faits de briques et de brocs. Nous prenons des petites touches à droite et à gauche, nous sautons d'une pièce à une autre, d'une temporalité à une autre, d'un décor à un autre. Alors qu'il y a des rêves qui sont vraiment, comme dans le concret, d'une histoire très linéaire, avec des émotions vécues fortement, un peu comme nous en parlions lors d'une autre chronique, quand une femme ou un homme a un rêve érotique, c'est vraiment vécu au plus profond de son être, jusque dans son ressenti, jusque d'ailleurs dans un aboutissement corporel, et évidemment que dans ce vécu qui lui est réel, eh bien, il ne laisse à penser que l'histoire qui correspondait à ce vécu est elle également réelle.
Jimmy ?
Justement, est-ce que ça se prépare d'annoncer son homosexualité ? Est-ce qu'on doit élaborer des stratégies ou ça peut venir au décours d'un repas sans qu'on ait préparé cette annonce, comme si on allait annoncer qu'on se mariait ou qu'on divorçait ou qu'on avait un nouveau job?
Je crois que les trois quarts des gens le préparent énormément, mais ce qui se passe dans la réalité se fait plus au détour d'une occasion qui est donnée dans la vie de tous les jours. Un peu comme quand d'ailleurs on est enfant et qu'on pose la question comment on fait des bébés, c'est en général quand l'autre est le moins disponible pour pouvoir y répondre, ce qui fait que la position de force est celui qui pose la question. Eh bien, ça se passe un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement un grand cérémonial, encore que ça dépende bien sûr des relations que nous entretenons les uns et les autres avec nos parents, mais en général, on a essayé des tas de stratégies et à un moment donné, on se lance. Et souvent, on se lance en vrac, parce que quand on a l'idée que de toute façon, nos parents ne vont pas accepter, que nos parents vont nous juger, mais en général, on se lance mal pour avoir exactement le résultat que l'on attendait, c'est-à-dire négatif. Donc soyons vigilants parce que nous avons toujours tendance à nous flageller. Dès lors que nous sommes dans l'infidélité au fonctionnement familial, dès lors que nous changeons d'axe par rapport à eux, que nous sortons un peu des rails, eh bien on a l'idée qu'on va être rejeté. Et donc plus on a l'idée que l'on va être rejeté, plus on se met en situation de l'être. Donc soyons vigilants, bien évidemment.
Merci beaucoup Catherine, merci Jimmy pour tous ces conseils. On se retrouve donc demain. Tout de suite, on va retrouver Mathieu Noël, comme chaque jour, et son équipe est sauvage.